Bonjour, la parité franc-congolais dollar américain est dans de scie. Le taux de change est passé de 4300 à 4800 pour 10 dollars américains en l'espace de 2 semaines. À la clôture de la journée du lundi 16 janvier 2005, le taux officiel était de 4400 francs-congolais pour 10 dollars américains. Cette situation provoque la flambée des prix sur les marchés. La Banque centrale du Congo avait injecté un montant considérable de devises américaine sur le marché du change. Objectif, tenter de stabiliser la parité franc-congolais-dollar américain. Face à la crise alimentaire, les industries développent la culture des organismes génétiquement modifiés. On trouve sur le marché du maïs ou du riz produit avec ce système. Il va sans dire que cette technique facilite une grande production sur les marchés. Y a-t-il des inconvénients? On le saura tout à l'heure. Un grenier renaît à Badolité. Près d'une année après la réunification de la RDC, on peut voir sur les marchés quinois ou mbangakais des tonnes de produits alimentaires made in Badolité. Seulement voilà, les bananes, maïs, arachides, poissons et viande boucanées sont convoyés par avion. La voie fluviale n'est pas sûre. Et puis, Talemi, ça fait 3 jours qu'ils ont revu leurs ampoules s'allumer. Après près d'un mois de coupure d'électricité, les Kalemiars ont vécu un véritable calvaire. Approvisionnement difficile, non, les poches noires ont favorisé l'insécurité. Les petites et moyennes industries étaient en veilleuse, les appareils électroménagers hors service. La recharge du téléphone portable impossible. Comment éviter à l'avenir pareille situation? On le saura avec nos invités et avec vous, chers auditeurs. Nsiala est à la mise en onde, Jody Keshama à la régie, Walter Moulondi au micro.
Okapi! Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
Après avoir pris de l'ascenseur la semaine dernière, le dollar américain a baissé sur le marché de change à Kinshasa. Mais les prix des denrées de première nécessité ne suivent pas le rythme. Tenez par exemple, le sachet de sucre coûte aujourd'hui 2000 francs congolais à la cité, alors qu'il se vendait sous peu à 1350 francs congolais. Cette situation soulève pas mal de plaintes au sein de la population. On va en savoir un peu plus avec Jody Keshama qui a fait le tour des marchés. Non seulement des marchés de denrées alimentaires, mais aussi des marchés d'échange, les cambistes des rues, comme on dit. Jody Keshama, bonjour.
Bonjour, Walter.
Quel est le taux d'échange à ce jour? Commençons par là.
Oui, vous savez que depuis le vendredi dernier, il n'y a pas eu de travail à Kinshasa.
Oui.
Donc le vendredi, c'était une journée ville morte. Le samedi, c'était férié. Dimanche, hier, c'était également férié. Donc les activités reprennent aujourd'hui, ce matin, à Kinshasa. Mais le dernier taux officiel, donc lors de la clôture du jeudi, de la journée du jeudi 13 janvier, le taux officiel était de 465 francs congolais pour 1 dollar américain. Mm. Alors hier, nous avons fait un tour à travers la ville, le taux d'échange entre 440 et voire même 430 francs congolais sur le marché noir, donc auprès des cambistes. Mm. Donc on remarque tout de même qu'il y a une baisse du dollar américain.
Et on dit qu'il y a une appréciation du franc congolais.
Tout à fait.
C'est par rapport à la monnaie nationale que nous comparons. Le dollar n'a pas baissé, il est resté tel qu'il est, mais c'est plutôt le franc congolais qui s'est apprécié vis-à-vis du dollar américain. Donc on note quand même cette appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Il y a quelques jours, un dollar américain s'est changé à 480, voire 500 francs congolais à certains endroits. Jody, est-ce que on peut savoir ce qui a favorisé cette appréciation du franc congolais alors qu'il n'y a pas eu de travail? C'est curieux quand même.
Ouais. Vous savez que la Banque centrale avait injecté la semaine dernière 12 millions de dollars américains, puis 5 millions de dollars sur le marché d'échange en vue de juguler la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Alors le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean-Claude Massangou, l'avait annoncé lors d'un point de presse tenu le mardi 11 janvier dernier. C'est lors de ces points de presse qu'il avait donné les causes même de la flambée du dollar américain. Écoutons-le.
Non, on ne tourne pas la planche à billets. Il y a eu plusieurs causes. Et une des causes, c'est évidemment la hausse des prix de carburant à l'extérieur. C'est la baisse du prix de notre diamant. Donc notre diamant est d'un faible caractère. Et il y a également aussi les événements de l'Est qui font que là où nous n'étions pas attendus pour intervenir en termes de financement, en termes de dépenses, nous étions obligés quand même d'accompagner nos forces armées pour défendre l'intégrité du territoire. Donc ça, ce sont les causes. Maintenant, en janvier, comme vous le savez, les entreprises ont beaucoup vendu en francs congolais lors des fêtes de Noël et de Nouvel An. Elles sont en train de reconstituer leur stock en mettant une pression sur la devise étrangère. Du côté de la banque centrale, c'est-à-dire des mesures monétaires, nous avons vendu 12 millions de dollars sur le marché de change et nous allons continuer. Aujourd'hui également aussi, je crois que la banque centrale va vendre à peu près encore 5 millions de dollars et la semaine prochaine, nous vendrons encore 1 million de dollars pour stabiliser.
Voilà, Monsieur Jean-Claude Massangou, gouverneur de la Banque centrale du Congo, de dit une chose est sûre, le franc congolais s'est apprécié par rapport au dollar américain, donc autour de 44, comme on dit, hein, 440 francs congolais jusqu'hier soir sur le marché noir, disons-le, chez les cambistes des rues, mais les prix des denrées alimentaires restent constants. Comme dans la situation où c'était assez élevé.
Oui, c'est quand même dommage du fait que les commerçants continuent à spéculer sur le prix des denrées. Et un détaillant d'ailleurs nous répond à propos de la constance des prix des denrées sur le marché.
Mais l'air de là les a quittés. Mais ndenge zo kité là, ndenge pe biloko zo kité là, te biloko tikel ga stationné na ngamba matsaki na tour à liboso wana. Je peux vous donner l'exemple, peut-être il y a les savons Mekako, par exemple. Savon Mekako, neti kuna, na kati ya magasin. Les bosses sont seulement à 300, ils sont à 350. Mais la minute où on va tirer à 350, il faut que tu aies à 400. Lève à Matiaki à 350 ou à dollars, c'est comment il y a 48. Mais le lot est à 43, mais la marchandise garde le même prix. Na 350, il y a 100 masiko. Sucre comme 200 francs, 180, 150. Bon, dollar et kiti, la kiti là-bas, on pète. Mais ça n'est rien à tout à l'écolo.
Voilà des constats de la réalité qui prévaut actuellement sur le terrain. On vient d'entendre, on a entendu le gouverneur de la Banque centrale qui explique pourquoi. Un opérateur économique, un commerçant qui constate cela aussi. Mais comment réagit la population qui consomme, qui doit aller acheter, qui doit aller s'approvisionner, mais qui subit malheureusement cette constance des prix sur le marché malgré l'appréciation du franc congolais depuis 2-3 jours?
Oui, et la population ne peut que se plaindre de cet état de choses. Et vous savez que le franc congolais s'est apprécié, mais le prix des produits de première nécessité reste constant. Et d'ailleurs, vous savez que le pouvoir d'achat de la population est vraiment faible.
Et même souvent calqué par rapport à la parité franc congolais dollar américain.
Donc les gens se plaignent de cette situation. Alors à ce sujet, je vous laisse écouter quelques réactions.
D'emblée, nous commençons l'année avec une hausse de prix sur toutes les marchandises. Et les salaires n'ont jamais été augmentés. Et ça fait une dizaine d'années. Comment voulez-vous que la situation puisse s'améliorer lorsque les salaires ne suivent pas? Il n'y a pas quelque part là où on peut puiser pour pouvoir équilibrer. Les ménages en souffrent en ce moment, en ces débuts d'année.
Je suis un peu plus de 6 000. Ozako mona ke moye ezana bisote tozako kokate tozako kokate biso tozako wela kibokonzi na bangote biso to lingi ke bana na biso bakota klasi bana na biso balia bien biso moko pe baboti to lia bien to lata bien na tongo bana ba meliti ti oya vreti na midi bana bale na poko bana bale eloko biso to lingi na mboko yo yango wana toza na posa ya kibokonsité.
Voilà une femme ménagère qui a exprimé tout ce que tout le monde exprime en silence, mais qui ne le dit pas. Cette situation vous concerne, cette situation nous intéresse. Réagissez, faites vos propositions, faites vos commentaires, vos analyses. Appelez au 081 890 68 90. Le thème, le sujet, c'est le franc congolais s'apprécie par rapport au dollar américain. La clôture de la journée hier soir, c'était à 440 pour 4400 pour 10 dollars ou 440 pour 1 dollar américain. Mais les prix sur les marchés, les prix des denrées alimentaires, les prix des
produits des cosmétiques,
voilà, première nécessité, voilà, je dis merci pour ça, n'ont pas changé. C'est une triste réalité qu'on observe sur les marchés. Je dis merci pour toutes ces informations. On sera avec d'autres économistes, peut-être qu'ils essaient de nous expliquer. Et surtout, quelles mesures d'encadrement il faut prendre. C'est bien beau pour la banque d'injecter des devises étrangères sur le marché. Il faut prendre des mesures d'encadrement par rapport notamment à la politique de fixation des prix sur le marché. Je ne suis pas économiste, mais bon, c'est une façon de parler. On attend vos réactions et Jody va rentrer de l'autre côté de la baie vitrée pour continuer à nous aider à vous faire parvenir cette émission dans les meilleures conditions.
Merci beaucoup, Walter.
Merci, Jody.
Radio Capi, la fréquence de la paix. Avec le soutien des coopérations suisses, britanniques, américaines et néerlandaises. Radio Capi, le souffle du Congo.
Et voilà, au Capi Action, le premier sujet du magazine aujourd'hui, c'est autour de ce taux de change qui a d'adossi taux d'échange la parité franc-congolais-dollar-américain. Et donc, en tout cas, la clôture hier soir, ce n'est pas le taux officiel, mais sur le marché de change, le marché noir, comme on dit, c'est en dollars, c'est changé à 440 francs congolais, après que cette parité avait grimpé par rapport au franc congolais, avait donc une forte dépréciation du franc congolais. Curieusement, ce que nous constatons, c'est que sur le marché, les prix des produits de première nécessité n'ont pas suivi le rythme de l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar. Donc on aurait souhaité voir les prix baisser aussi sur le marché, ce qui n'est pas le cas. Que se passe-t-il? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Simplement de façon économique, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit suivi? Pour commenter ce sujet, nous avons en ligne M. Jean Bamanissa. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes président de la FEC. Est-ce que vous avez observé la même chose que nous, que le franc congolais s'est apprécié légèrement ces derniers jours, et puis malheureusement que sur le marché, les produits de première nécessité, leurs prix n'ont pas baissé?
Oui, tout à fait. Donc je tiens à signaler d'abord que je suis l'administrateur délégué de la fédération. Et je voudrais revenir sur le problème de la hausse de prix. Vous savez que le tout repose sur d'abord l'élément confiance, l'élément offre et demande de devises, et que il y a eu une augmentation malheureusement fulgurante pendant une période où il y a eu une crise politique. Tout ça se lie. Et dans cette panique, il y a les taux qui ont augmenté, les prix ont augmenté, et ce n'est pas seulement sur la personne qui vend sur sa table ses produits ou l'importateur. Donc il y a tout un paramètre, tout un circuit économique qui a subi ces augmentations dues à l'augmentation très brusque du taux. Et qu'est-ce qui est fait? Bien souvent, il faut une communication. Quand on a des éléments, et le gouvernement doit pouvoir anticiper, ainsi que la Banque centrale, parce qu'il y a d'abord eu une crise politique, il y a eu la fin de l'année où il y a eu beaucoup de sorties, certainement, des francs congolais. Il y a un mouvement aussi des troupes vers l'est du pays, ce qui demande des fonds. Tout cela doit être anticipé, tout cela doit être pensé, réfléchi, discuté avec les opérateurs pour que ces problèmes de taux gère pas dans la rue. Cela est très important. Ainsi, quand le gouvernement fait un effort par la Banque centrale, comme cela vient d'être fait, pour stabiliser en injectant des capitaux en dollars, il faut aussi une communication dans l'autre sens et par le biais justement des agents de l'administration qui malheureusement ne passent chez les opérateurs économiques que pour faire des contrôles quelquefois tracassiers et policiers, devraient justement avoir plutôt un mécanisme d'explication pour que tous les paramètres, tous les intervenants au niveau économique, au niveau du transport, au niveau de l'approvisionnement, puissent comprendre que le taux est en train de baisser et que, eux, sur le marché, le prix devrait aussi baisser. C'est une affaire de culture, c'est, je crois, de responsabilité de part et d'autre qui doit être fait tant au niveau des opérateurs économiques que de l'appareil de l'État.
Monsieur Jean Bamanissa, vous êtes au carrefour entre une réalité qui se passe au niveau de Kinshasa et la réalité qui se passe dans les provinces, parce que vous avez été pendant longtemps président provincial de l'AFEC au niveau de la province orientale, vous êtes actuellement administrateur délégué de l'AFEC au niveau national. Il y a toujours un taux qui est toujours élevé en province. Pourquoi, à votre avis?
Écoutez, en province, d'abord, il n'y a pas de disponibilité des devises, donc ça reste un gros problème. Étant donné que les transactions aujourd'hui ne se font pas, il n'y a pas existence des banques pour justement faire des opérations avec des marges correctes. Et cela, tout simplement, dénote que bon, toutes les transactions se font sur Kinshasa et pas au même rythme qu'à l'intérieur.
Il y a par exemple cette préoccupation d'un auditeur de Mbandaka qui s'appelle Gérine Zoli qui nous informe qu'en Mbandaka le taux est encore à 50 000 francs congolais pour 100 dollars. Il s'inquiète que nous sommes quand même dans un même pays et à quoi servirait le gouvernement de transition si déjà on ne peut pas avoir le même taux d'échange pour un pays qui s'est dit unifié et pourquoi cette différence? Les aspects politiques, c'est au gouverneur de la Banque centrale du Congo. Mais vous, en tant qu'opérateur économique, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça?
Oui, quand il y a justement injection des francs congolais sur le marché, je pense que le gouvernement, la Banque centrale est à mesure de savoir sur quelle répartition cela a été fait au niveau de Kinshasa et des provinces et de savoir quelle est la masse aujourd'hui qui se retrouve à Kinshasa et aux provinces et d'anticiper sur le taux aussi. Donc c'est un calcul qui devrait être assez facile à faire. Aujourd'hui, s'il y a injection, s'il y a explication, cela doit être fait aussi de l'autre côté. Il y a eu injection de 12 millions de dollars sur le marché de Kinshasa, oui, mais depuis ce matin, nous recevons aussi des coups de fil des opérateurs de l'intérieur qui se plaignent qu'eux n'ont pas reçu ces devises et que le taux reste élevé. Donc je crois qu'il ne faut pas intervenir seulement sur le marché de Kinshasa. Si c'est une économie unifiée, nous devons avoir le courage de faire partout.
Donc à vous attendre, vous voulez dire qu'il faut que la Banque centrale aussi puisse intervenir de la même façon qu'il a fait sur le marché à Kinshasa, dans d'autres centres commerciaux principaux du pays?
Oui, tout à fait, dans les proportions équitables, connaissant les masses monétaires, les masses en francs congolais par province, la Banque centrale est à mesure avec les chiffres et les statistiques qu'elle a et qui sont très bien faits. Elle est en mesure de savoir combien il faudra injecter aussi par province pour justement réduire le taux, parce que sinon on va avoir un double effet sur le marché de Kinshasa. Le taux il va augmenter à l'équateur, le maïs va augmenter, et si le taux baisse ici, malgré que ce produit seront acheminés dans 2-3 semaines sur Kinshasa, il n'y a personne qui voudra les baisser au risque de perdre son capital de base au taux de devise.
Oui, oui, oui.
Donc il faut intervenir en même temps et franchement, nous attendons aussi justement des opérateurs administratifs, des opérateurs de l'État, ainsi que de la Banque centrale, un mécanisme de communication efficace pour justement... Genre, comment anticiper peut-être et comment aussi baisser les taux.
Monsieur Jean Bamanissa, est-ce que pensez-vous que l'injection des devises étrangères, notamment le dollar américain, est-il le seul moyen de garantir la stabilisation du taux d'échange entre les francs congolais et les devises étrangères?
Non, il n'est pas du tout le seul moyen. La Banque centrale a mis aussi en place un taux d'intérêt qui est très intéressant dans le placement des francs congolais. Et c'est un outil qui peut résorber la masse qui est en trop sur le marché des francs congolais. Et puis, il faut souligner aussi qu'en fin d'année, le marché des diamants s'était quelque peu régressé, étant donné que c'était les vacances, fin de l'année, les transactions avaient diminué, et qui aussi diminuait l'offre de devises sur le marché bancaire. Et l'injection de devises, oui, c'est un moyen efficace, mais ce n'est pas le seul moyen. Il y a d'autres éléments, et nous pouvons en tout cas vous assurer que l'élément confiance est aussi très très important, étant donné que nous ne sommes pas grands producteurs, grands exportateurs, que nous ne générons pas beaucoup de devises pour stabiliser notre monnaie. Et pourtant, cette masse monétaire ne fait qu'augmenter. Les transactions en RDC ont fortement augmenté depuis 2 ans. Donc, on a de plus en plus besoin et de francs congolais et de devises pour des marchés de l'intérieur pour les échanges.
La devise la plus utilisée ici et chez nous, c'est le dollar américain. Or, lorsqu'on observe depuis la reprise de la coopération structurelle avec les grands bailleurs de fonds, l'un des plus importants, c'est l'Union européenne. Sa monnaie, c'est l'euro. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas trop souvent de la parité euro-franc-congolais, dès lors que l'on sait que depuis quelques mois, c'est la communauté européenne qui arrive pour soutenir beaucoup de projets dans les routes, dans beaucoup d'infrastructures?
Oui, bon, là, ce serait un autre débat pour voir si la coopération par la multilatérale ou bilatérale est vraiment efficace sur l'injection de marché. Moi, ce serait un autre débat. Je vous dis déjà que non, ce n'est pas très efficace, puisque les retombées ne sont pas perçues sur le marché. Ce sont, oui, on entend des grands chiffres, mais ces fonds-là ne sont pas sur le marché local. Ce sont des fonds qui sont emmenés ici, soit en biens et divers autres produits, mais qui n'interviennent pas, en tout cas, sur le marché local. Très peu, en tout cas.
Voilà. Monsieur Jabba Manissa, je rappelle que vous êtes administrateur délégué de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et puis, enfin, que vous avez aussi partagé votre expérience de plusieurs années à la tête de la Fédération provinciale de la province orientale. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été disponible. Vous étiez sur la voie, on attendait que vous conduisiez. Merci infiniment. Nous vous souhaitons tous nos meilleurs voeux pour 2005 et surtout plein succès dans la réalisation de votre business.
Tout à fait, merci beaucoup et franchement, je peux dire aussi en tout cas aux opérateurs de suivre le taux et de réajuster les prix sur le marché. Ça est un devoir aussi pour les opérateurs économiques.
Voilà.
Et bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée à vous. Ok, puis action, le premier sujet du magazine est passé au sujet de l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Malheureusement, les prix des produits des premières nécessités sur les marchés n'ont pas suivi, n'ont pas baissé, ils sont restés assez élevés. Et des réactions des auditeurs, le prophète Mathieu, qui nous appelait de Kananga, qui pense que le gouvernement doit stabiliser la monnaie d'abord à partir de la monnaie locale et non pas par le dollar. C'est important, pense le prophète Mathieu, on doit valoriser notre monnaie aussi. Autre sujet, vous avez déjà peut-être entendu parler des OGM, c'est le sigle des organismes génétiquement modifiés. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces organismes sont à la base des nouvelles technologies bioalimentaires. Ça permet d'augmenter et d'améliorer la production agricole. C'est pour faire face, évidemment, à l'insuffisance alimentaire que l'on observe dans le monde. En 2004, les chiffres indiquent que les surfaces de cultures génétiquement modifiées ont enregistré une croissance de 20%. Mais à ce jour, ces produits sont encore sujets à de nombreuses polémiques. Certains pensent que la culture de ces produits a des conséquences sur l'environnement. D'autres, en revanche, estiment que ces OGM sont à long terme nocifs à la santé. On va en parler avec Monsieur Ngombo Mbala Marcel, qui s'est penché sur la question. Marcel, bonjour.
Bonjour, Walter.
Est-ce que on peut commencer par les commencements pour savoir en quoi consiste un organe, c'est quoi, si vous voulez, un organisme génétiquement modifié?
Selon le professeur Lumina Moremo de la faculté d'agronomie de l'université de Kinshasa, un organisme génétiquement modifié est un organisme dont le code ou l'information génétique a été modifié soit en ajoutant, soit en retranchant, ou soit en altérant un ou plusieurs gènes d'un caractère spécifique que l'on voudrait soit renforcé, soit atténué ou carrément supprimé. Cet organisme peut être une plante ou un animal. Prenons l'exemple d'une plante dont on modifie les codes génétiques de manière à lui permettre de résister aux herbicides qui sont ces produits qui tuent les mauvaises herbes.
Mmh. Ok, par exemple, hein, c'est assez scientifique encore jusque-là. Ceux qui comprennent ne sont pas assez nombreux, mais on va y arriver en évoluant petit à petit. Mais quels sont... Alors ça va être beaucoup plus intéressant. Quels sont les produits aujourd'hui qui sont concernés par ces techniques de génétiquement modifiées, si vous voulez, ces manipulations génétiques?
Les produits les plus couramment cités sont le maïs et les soja cultivés surtout aux États-Unis. Ce maïs est consommé sous forme directe telle que farine, mm-hmm. semoule, amidon de maïs dans les céréales du petit déjeuner.
Pour ceux qui en prennent.
Et Walter, dans de nombreux gâteaux et autres plats cuisinés. Mm. Mais il est également consommé de manière indirecte, par exemple dans la viande du bétail qui est nourrie au maïs transgénique. Mm-hmm. En revanche, pour ce qui est du soja transgénique, il est consommé directement sous forme d'huile de soja, de matière grasse végétale, de farine de soja et indirectement dans la viande de bétail nourrie au tourteau de soja.
Mais voilà, là ça commence à tenir, on commence à se représenter à quoi ça ressemble certains OGM, mais en dehors des États-Unis, parce que vous avez cité les États-Unis d'Amérique, il y a sûrement d'autres pays où cette nouvelle technique est en application, Marcel.
À part les États-Unis, on pourra citer le Canada, l'Argentine et la Chine. En Chine d'ailleurs, cette année, le riz transgénique pourra servir pour la première fois d'aliment de base à des centaines de millions de personnes. Mmh. Mais il faut tout de suite rappeler que dans plusieurs pays du monde, le produit transgénique font l'objet des débats incessants autour de leur nuisance sur la santé et l'environnement.
Et oui, ça c'est connu, j'en sais quelque chose personnellement. Il y a en effet des mouvements écologistes qui estiment que la culture de ces plantes transgéniques ne présentent pas de sécurité pour l'environnement, sans compter que de nombreux consommateurs s'inquiètent des effets à long terme de la consommation de tels aliments. Si on peut prendre les cas des mouvements écologiques, qu'est-ce qui peut bien justifier leur opposition à l'expansion des OGM, organismes génétiquement modifiés, Marcel?
Cela peut s'expliquer par le fait que certaines plantes telles que maïs, soja, ont été modifiées génétiquement de manière à résister aux herbicides. Mais alors que les OGM sont censés réduire les applications de ces produits chimiques, c'est souvent les contraires qui s'observent. Suivant plutôt le professeur Lumbenamo qui nous parle des avantages de ces cultures génétiques, mais aussi de ses conséquences sur l'environnement.
Une des manières pour intensifier la production agricole, c'est d'augmenter la productivité des terres. La productivité des terres peut être augmentée par des pratiques qui améliorent ou tout au moins maintiennent la fertilité des terres. Une deuxième méthode serait l'augmentation de la production des plantes, c'est-à-dire la création des variétés améliorées à haut rendement. Et maintenant, l'une des manières de produire ces variétés à haut rendement, c'est justement de modifier leur code génétique, soit pour accentuer leur rendement, soit pour augmenter leur résistance aux maladies et aux insectes qui les attaquent, soit en les modifiant pour qu'ils sécrètent une substance qui puisse aider à la protection de cette culture-là contre les mêmes insectes dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais cela, bien sûr, ne se fait pas sans conséquence. Il y a plusieurs risques. Prenons par exemple que nous voudrions augmenter les rendements d'une culture. Et pour cela, nous avons choisi de modifier le code génétique de la plante. pour lui conférer une capacité de résister à un insecte prédateur. En augmentant la production d'une substance insecticide, plusieurs conséquences peuvent découler d'une telle démarche. Par exemple, certes le rendement sera augmenté, mais les fleurs de cette culture peuvent être butinées par des abeilles pour lesquelles la dose de la substance insecticide serait létale. Alors, dans de tels cas, les abeilles seront aussi affectées par la substance et mourront en masse. Il est clair que nous aurons des problèmes puisque les abeilles qui butinent les fleurs non seulement produisent du miel, mais aussi elles ont le rôle de polliniser d'autres plantes.
Évidemment, et c'est là le problème, c'est là qu'on assisterait à des problèmes sur l'environnement, sur la multiplication de d'autres espèces, parce que la pollinisation via le vent d'abord, et ensuite les abeilles, c'est très important pour la reproduction de... Non, je ne voudrais pas rentrer en détail, parce que c'est un sujet qui me passionne personnellement. Mais bon, pour en revenir à vous, Marcel, avec ces cultures transgéniques, outre le fait qu'elles peuvent être nocives au maintien de l'environnement, il y a tout de même un impact positif sur le rendement agricole, parce qu'on l'a entendu dans les propos du professeur Lumbwe-Namo, hein, Raymond, par rapport notamment à l'augmentation de la capacité à produire. Les professeurs le pensent. Et est-ce que ces nouvelles techniques se pratiquent-elles déjà dans certains pays africains, Marcel?
La majorité de pays africains ne sont pas encore favorables à cette nouvelle technologie, même si certains acceptent déjà les importations et la production d'OGM sur leur territoire. C'est le cas de l'Afrique du Sud où le maïs modifié est cultivé. Mais pour ce qui est de la République démocratique du Congo, les lois du pays ne sont pas encore claires sur cette question et aucune expérience n'a encore été tentée sur ce type de culture.
On saura peut-être tout à l'heure avec des spécialistes. Vous êtes peut-être agronome, spécialiste dans l'agroalimentaire, assez poussé dans la recherche. Nous n'avons pas encore des informations précises pour savoir si oui ou non cette culture se pratique déjà ici ou si c'est technique. Si vous avez des informations, faites-nous part de cela. Appelez au 081 890 68 90. Donc c'est cela que on peut dire maintenant. La réglementation internationale exige de bien étiqueter les OGM destinés à la consommation. C'est comme sur un paquet de cigarettes, on oblige les producteurs à dire fumer tue.
Préjudiciable à la santé.
Non mais ça c'était il y a quelques années. Actuellement dans certains pays en Europe, on dit écrivez sur le paquet de cigarettes fumer tue, plus seulement est préjudiciable. C'est autre chose. Et en ce qui concerne les OGM, il faut mentionner que ces produits étant un OGM, organisme génétiquement modifié comme ça, les écolos ne les consommeront pas, on cherchera à consommer nature, naturellement. Bien, merci Marcel. On va suivre avec les spécialistes la question.
Merci Wethia.
Face à la crise alimentaire, face à l'insuffisance alimentaire, certaines industries agroalimentaires développent des techniques de modifier génétiquement certains organismes. Dans cette industrie-là, on parle notamment du maïs, on parle du soja, on parle du riz, ainsi de suite. Mais bon, avantage, c'est pour remplir les marchés de beaucoup de produits, mais on suspecte qu'il y aurait quelques inconvénients. Bon, on ne va pas commencer par là, mais ça commence à se développer en Afrique, notamment l'Afrique du Sud. Est-ce que l'expérience, on y réfléchit, ne serait-ce qu'y réfléchir, en République démocratique du Congo? Pour commenter cela, nous recevons en studio l'ingénieur Kapata Mouya, Gabriel. Bonjour, monsieur Kapata.
Bonjour, cher ami.
Alors, on parlait de OGM. Pour le commun des Congolais, c'est assez nouveau. Est-ce que vous, au niveau scientifique, parce que vous êtes dans le domaine, est-ce que vous en parlez de temps en temps?
Oui, nous en parlons au niveau du ministère de l'Agriculture, parce que je suis responsable du service national de vulgarisation au sein de ce ministère. À ce titre, nous intervenons parfois à travers des conférences débats avec ceux qui sont intéressés par la question. On a eu un échange avec Copemeco, qui est une organisation de petites et moyennes entreprises du Congo. Et là, on a échangé avec des gens de niveaux différents. À l'intérieur de notre ministère, nous avons organisé une conférence, débat, à laquelle presque toutes les parties intéressées de l'inviter. Donc, au sein de notre ministère, ce n'est pas une question qui est gelée, c'est une question d'actualité.
Est-ce que la RDC, à partir du ministère de l'Agriculture, en arrivera peut-être d'ici là à utiliser cette technique de OGM?
Oh, c'est une technique assez pointue, hein, qui demande une expertise assez avancée. Je ne crois pas que les pays soient aujourd'hui outillés du point de vue ressources humaines, du point de vue laboratoire, pour mener ce genre de recherches. Mais par contre, ce qui est à encourager, c'est des échanges avec des institutions universitaires internationales, pourquoi pas à travers les accords régionaux, hein, au niveau du continent, ou au niveau de pays avec lesquels nous entretenons certaines relations.
Y a-t-il avantage à recourir aux OGM?
Oui, mais je vous ai suivi tout à l'heure, hein, j'ai suivi le reportage. Si vous permettez, je vais peut-être préciser un peu le contour de cette question.
Je vous en prie.
On a tendance à ramener ces débats autour des variétés transgéniques, ça veut dire des variétés génétiquement modifiées. Mm-hmm. Ça veut dire tout simplement que ce sont des variétés auxquelles on a transféré des gènes pour répondre à une préoccupation. Ce n'est pas fait par un coup de tête. Mm-hmm. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a d'autres domaines de la vie qui sont intéressés par les techniques des OGM. Mmh. Je prends par exemple les traitements de malades de diabète. Mmh. Savez-vous que la totalité de l'insuline qui est produite au monde aujourd'hui, c'est à partir des OGM?
Ça, on ne le savait pas.
Ah, ben, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Parce que avant qu'on ait mis au point cette technique, l'insuline était extraite de porc. Vous imaginez le nombre de diabétiques qu'il y a dans le monde aujourd'hui? S'il fallait recourir rien qu'à l'insuline extraite du porc, il aurait fallu combien de porcs au monde? Mais grâce à la biotechnologie ou au génie génétique, on a pu transférer aux bactéries les gènes responsables de la sécrétion de l'insuline. Vous voyez la capacité de reproduction des bactéries, et cela a facilité la fabrication au laboratoire de l'insuline qui est actuellement utilisée à travers le monde. Mais alors, je suis parfois embêté de voir que les gens paniquent devant cette question, comme si dans notre vie courante, on ne faisait pas face aux OGM. Mm-hmm. Je vais vous surprendre aussi en vous disant que le vaccin anti-polio, c'est un produit OGM tiré des bactéries ou des substances modifiées. Mm-hmm. Donc les OGM ne sont pas seulement des variétés transgéniques, ce sont des services, des produits et des matériels végétaux utilisés. Mm-hmm. Je vais ajouter un dernier produit, je vais peut-être m'arrêter là, le vaccin contre l'hépatite B. Mm-hmm. C'est un produit aussi des organismes génétiquement modifiés. Donc il faut qu'on dépassionne cette question,
qu'on relativise la question.
Ben alors pour ce qui concerne le monde végétal, certainement il y a des questions à se poser. Sur des contaminations.
C'est là l'inquiétude qui soulève les écologistes.
Oui, les écolos, ils ont raison de poser cette question, parce que j'ai suivi tout à l'heure le professeur Lombeno parler des variétés auxquelles on a conféré les caractères de résistance à un insecte, à un type d'insecte donné. Alors la crainte, c'est de voir peut-être des papillons ou des abeilles venir se faire intoxiquer par la substance extraite par la plante. D'accord, mais voilà l'autre revers de la médaille aussi. D'ici 15 à 20 000, d'ici 12, 15, 20 ans, la population mondiale passera de 6 milliards à 8 milliards. Ok? Mm-hmm. Les superficies des terres cultivables ne devront pas augmenter. On sera sur les mêmes superficies. Ok? Alors, il faudra nourrir plus d'hommes sur la même superficie des terres. Ok? Alors, aujourd'hui, on a compris qu'en faisant recours aux techniques des OGM, on va augmenter la productivité des variétés, on va augmenter la quantité de récoltes sur la même superficie des terres. Et ceci éviterait qu'on aille détruire les forêts, parce que la tendance aujourd'hui, c'est d'aller vers les nouvelles terres en détruisant les forêts.
Voilà, changer aussi les terres là où ce n'est plus productif.
On abandonne ces terres qui ne sont plus fertiles pour aller vers de nouvelles terres. Ces nouvelles terres sont dans les zones forestière, donc on détruit la forêt. Voilà encore une des conséquences néfastes à laquelle les écolos ne font pas souvent allusion. Donc il faut
vous soutenez que vous soutenez, on comprend que vous soutenez que C'est bénéfique. Hein.
C'est bénéfique, c'est bénéfique à plus d'un titre. Hein. Maintenant, il faut que le pays prenne position. Je parle en tant qu'une personne ressource. Alors maintenant, il faut que le pouvoir public prenne une position par rapport à cette question et réglemente l'introduction sur le territoire national des OGM. Mm-hmm. Et alors moi, je pense que pour nuancer les choses, il faut catégoriser les OGM. Les OGM considérés comme matériel de reproduction. C'est le cas des semences, de boutures, etc.
Des semences améliorées.
Des semences améliorées. Mm-hmm. Et des OGM, produits de consommation courante, mm-hmm. comme la farine, les huiles végétales, les produits pharmaceutiques, et tout ça. Mm-hmm. Alors, mais il faut qu'on prenne position en connaissance des causes, qu'on sache bien de quoi on parle.
Vous êtes technicien. Si le politique doit prendre position officiellement réglementée, il va requérir votre expertise. Que lui conseillerez-vous?
Oui, mais je veux dire ceci, je crois que c'est un peu la position du ministère de l'Agriculture. Hein. Avant de diffuser des variétés OGM susceptibles de contaminer la biodiversité, on peut commencer d'abord par la phase expérimentale, dans des conditions contrôlées. Par contre, pour ce qui est de la consommation de produits courants, viande,
maïs,
produits pharmaceutiques, farine de maïs, de blé, là, je n'ai pas des données exactes sur la toxicité sur l'homme due à la consommation de ces produits.
Les recherches se poursuivent.
J'ai lu des publications faites par des Américains et jusque-là, il n'y a pas de preuves de toxicité sur l'homme suite à la consommation de produits OGM.
En FM, sur Internet, par satellite, Okapi, la radio proche de vous. Okapi.
Et voilà, nous allons conclure avec l'ingénieur Kapatamouya Gabriel sur cette question de OGM. Vous nous avez fait la part des choses qu'il faut distinguer par rapport aux produits des consommations courantes et aux semences notamment. Hein. Là, on comprend que pour cette question-là, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Il faut encourager ça. Pour ce qui est des semences, notamment.
Non, pour ce qui est des semences, j'ai dit que au niveau du pays, compte tenu de l'expertise nationale en rapport avec cette question, il faut que les choses soient suivies par des institutions agronomiques,
par phase expérimentale
pour préciser un peu le contour de la question.
Dommage déjà qu'il y ait une grève à l'IFA, l'Institut facultaire agronomique. Comment dans ces situations-là, ils peuvent faire la recherche?
Y a l'Institut national de recherche agronomique et qui a des stations à travers le pays. Hein, donc on peut envisager conduire des expériences sur les variétés transgéniques au niveau des centres et stations de l'INERA, pendant que la question va trouver sa réponse au niveau de l'IFA et en Gambie.
J'ai été là-bas il n'y a pas longtemps, dans la brousse, totalement abandonné. Là.
C'est dommage. Je sais par contre qu'il y a des pays comme le Burkina Faso qui s'intéressent particulièrement au coton transgénique. Donc, j'ai suivi à la télé il y a 2 semaines environ des expériences qui sont conduites par des chercheurs. Ça veut dire qu'il faudra arriver à tirer des conclusions sur les avantages qu'on peut retirer d'une culture transgénique par rapport à la culture traditionnelle. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que cette question soit encore laissée à l'appréciation des experts. Mais dommage que nous avons très peu de personnes outillées, compétentes pour traiter de cette question. Donc il faudra peut-être renforcer les capacités nationales par rapport à la question.
En tout cas, on est heureux de vous recevoir. Je voudrais avoir une garantie, je prends les auditeurs à témoin, que vous serez encore disponible prochainement pour venir discuter avec nous de plusieurs matières, parce que vous, le Service national de vulgarisation, vous avez beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, vous n'avez pas tous les canaux nécessaires pour dire ce que vous avez à dire.
Je suis à votre entière disposition. Je n'ai pas hésité à répondre à votre invitation. Hein, donc, je regrette que le temps soit court. Hein, sinon, on se serait étendu sur la question.
Hein. On va le faire à petit bout. Vous savez, lorsqu'on mange, par exemple, le matin, c'est un petit truc, un petit déjeuner, puis à midi, un peu plus consistant, et puis encore un peu plus grand. C'est la même stratégie que nous utilisons, parce que l'information, c'est de l'aliment pour les auditeurs. Quand vous leur donnez beaucoup à la fois, ils risquent d'être constipés et d'oublier beaucoup de choses. C'est notre petite stratégie. Voilà, vous êtes déjà au courant de tous les secrets de la maison. Donc vous êtes chez vous. Ingénieur Kapatamouya, merci beaucoup. On compte sur votre disponibilité prochaine.
Voilà, merci bien.
Merci. Deuxième partie du magazine Okapi Action. Nous sommes ensemble pour la suite. Tout proche de nos auditeurs, nous allons rester dans le domaine de l'agriculture, de la production agricole. Après avoir compris des explications de l'ingénieur Kapatamouya Gabriel, ce que je vais vous dire, c'est il me l'a dit en quittant les studios, qu'il serait intéressant que nous organisions des échanges, débats avec des étudiants de la faculté d'agronomie, avec des chercheurs sur des questions de production alimentaire qui concernent tout le monde. Et nous avons dit oui, on va l'organiser. Et c'est s'il y a des étudiants en agronomie qui nous écoutent à l'UNIKIN, à l'université de Lubumbashi ou à l'IFA Yangambi, à l'université de Kisangani, eh bien voilà, cette demande d'un échange d'informations par rapport à toutes ces questions. Donc c'est dit et c'est ouvert. Nous sommes disposés à prêter nos micros pour couvrir ce genre d'échanges pour le bien-être de nos populations et surtout de nos producteurs agricoles.
Okapi. Okapi à Badolité sur 93 FM.
Un grenier renaît à Badolité. Près d'une année après la réunification de la République démocratique du Congo, on peut voir sur les marchés Kinoa ou Mangake des tonnes de produits alimentaires made in Bado. Seulement voilà, les bananes, maïs, arachides, poissons fumés, frais ou salés, viande boucanée sont convoyés par avion. La voie fluviale n'est pas sûre. L'agriculture, la pêche et la chasse sont les principales activités économiques qui se développent ces derniers temps dans la ville de Badolité. On en parle avec notre confrère Askin Zigbia Tayoro. Bonjour et bonne année Askin.
Bonjour Walter, bonjour à nos auditeurs.
Après quelques décennies, Badolité, tanière politique de l'ancien maréchal président, Badolité, bastion du MLC, Badolité, si vous voulez, cacheté politique, aujourd'hui, Bado veut offrir l'autre revers de sa médaille, Badolité en grenier qui renaît de ses cendres. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces changements à Skanzigbia Tayoro?
Ok, Walter, effectivement, durant la Deuxième République, du temps de feu Maréchal Mobutu, Badolite était plus dominé par des activités politiques dont lui-même le feu Maréchal était au centre. Les activités économiques, bien qu'existantes, étaient léguées au second plan. Les populations sur place dépendaient financièrement du président de l'ex-Zaïre. Et ces populations ne s'adonnaient pas, par exemple, aux activités agricoles. Mais aujourd'hui, le temps de dépendance est révolu. Les populations ont pris conscience qu'il fallait se prendre elles-mêmes en charge. C'est ainsi que certains ont choisi de faire les champs et les autres la pêche et la chasse.
Alors parlons de l'agriculture pour commencer à Skanzigbia. Qu'est-ce qui est le plus produit à Badolité actuellement?
Dans cette ville, on cultive presque tout. Les arachides, les maïs, le manioc, les soja, les bananes. Et la récolte de tous ces produits est destinée non seulement à une consommation locale, mais est aussi dédiée à Kinshasa. Il n'y a pas seulement l'agriculture, je voulais je dire, il y a la pêche et la chasse qui marchent aussi à Badolité. Donc chaque semaine, des tonnes de poissons, de viande boucanée quittent la ville pour Kinshasa par le truchement des avions de la compagnie Winibira qui s'y est installée presque une année.
Mais est-ce qu'on sait qu'il y a maintenant un mouvement de la population active vers le commerce des produits agricoles, des poissons et de la viande? Mais où est-ce qu'on trouve les poissons et la viande, puisque Badolité n'est pas quand même comme Bandaka autour d'un fleuve et d'une grande forêt?
Oui, tout à fait, Walter. Mais vous savez, Badolité est considéré comme un grand centre qui est approvisionné par des villages périphériques. Par exemple, les poissons viennent du territoire de Mobayi Mbongo, situé à 25 km de Badolite, un territoire qui exploite la rivière Oubangui. Mmh. Les poissons viennent aussi des localités des Fiwa, des Kawadje, qui disposent de plusieurs sources poissonneuses. Par ailleurs, les viandes boucanées proviennent plus de Boussinga à 140 km de Badolite et de Kotakoli à 90 km de la ville. Donc les localités, ces localités disposent de forêts qui contiennent beaucoup de gibier. À cela s'ajoute aussi les prises des chasseurs de Badolite. Donc produits agricoles, poissons, viandes inondent presque tout le temps le marché de Badolite, ce qui permet aux commerçants locaux de s'approvisionner pour revendre les produits à Kinshasa. Un commerçant rencontré au grand marché de Badolite témoigne.
Bado ezali na autosuffisance alimentaire. Tobimisi biloko mingi ndakisa songo masangu nguba toze na bavion mingi te mais avion ezali kokomela biso une fois par semaine tozali kotindika capitaine na mai ya biso ya Oubangui tozali kotindika banzombo bamboto et puis taba ezali kokende na kanti Kinshasa bango moko bazali komona tango maso avion ezokoma na Kinshasa bango moko bazali komona ndenge bado ezali kotindika biloko.
Merci de nous écouter à Badolité dans la bande FM sur 93. Est-ce qu'on voit très bien que des efforts ont été déployés à Bado pour la relance de l'économie de la ville, mais est-ce que vous avez réussi à savoir d'où est partie l'initiative du commerce qui semble bien s'organiser dans la ville de Badolité?
Eh bien Walter, tout est parti de la prise de conscience des opérateurs économiques de la ville. Fini la guerre, c'est le temps de la paix, il faut en profiter pour travailler. C'est là la résolution qu'ont prise les commerçants. Ces opérateurs économiques se sont en fait organisés après la réunification du pays pour créer, en collaboration avec la compagnie d'aviation Wimbidira, des agences de fret, ce qui permet donc aux populations aujourd'hui d'écouler divers produits vers la capitale. Et en retour, elles obtiennent des produits manufacturés tels que savon, sucre, sel, habits et autres produits cosmétiques.
Mmh. Mais alors, les efforts des commerçants de Badolité sont encouragés parce que bon, on ne parle pas de Gbado comme un centre de production ou d'évacuation, si vous voulez, ou une plaque tournante de certains produits agricoles. Leurs actions permettent donc à cette ville de contribuer, il faut le reconnaître, à l'économie nationale. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés ces commerçants pour maintenir leurs efforts? Parce que l'élan est parti, mais bon, il faut maintenir l'élan.
Eh bien, Walter, cette question, nous l'avons posée à plusieurs commerçants sur place. La majorité estime que les moyens de transport fluviaux sont d'une importance vraiment capitale pour l'expédition des tonnes de produits agricoles. Il faut savoir que l'envoi par avion coûte extrêmement cher. Mais depuis la reprise du commerce fluvial entre Kinshasa et le Nord Oubangui, ces commerçants ne connaissent que des déboires. Écoutons leurs plaintes.
Difficulté ma carte c'est là qui pour au moins tu commences à faire de quoi va produire agricole au moins bah tout moi mignon bas avec continue de kabataba bah mbisi bah moi bah blog mickey bah naïko qui est un avion bah mais quand il consomme bah produire agricole pour bah mes canons côté bateau pour avion je cata suko yo nous sommes comme capitaine bango et tika na carte à bah ça qu'on a jusqu'à là en tout cas bah j'arrive même à attendre espoir que produire n'est qu'au commencement sur capital bon peut produire ça bah comme la boussine bah au moins la produit et ça dit mais jusqu'à là donc il demande quoi j'ai sous test pour donner un autre effandi avion plutôt côté chez les arbres donc moi il faut comment taper l'avion t'es
compagnie aérienne toujours t'es dans la compagnie aérienne moko azo fatire l'endengue il est moko ali bon ceux qui basali t'as mis balo des misato bah et bien l'endengue bah quoi bah quoi servir clientèle à Guado et ça bateau au bazar à Maya côté à Boussinga ma sang est vendu plus de 5000 ou 6000 ça quoi est vendu ou anapa ma soie monsieur yaki et tiki biloko biloko bateau et ça repole.
Et voilà, autant de problèmes, mais à ce qu'on le sait, la guerre a mis à genoux beaucoup d'opérateurs économiques. Qu'en est-il des hommes d'affaires de Gbado?
Ouais, ça, c'est encore un autre problème qui frappe vraiment le commerçant à Badolite. Et donc, sorti de la guerre, parce que tous les opérateurs économiques ont été sinistrés, ils ont besoin en tout cas de l'aide du gouvernement, comme nous explique Ekpapara, l'un des célèbres barman de la ville.
et tumbayaki et pillé du sol biloko tout les tingayo na zaki victime ya makambo ebere tout population tout ya badobayebi et loko nini et para vivaki c'est quoi le comme la grâce dans zambe nde nazo kuka ko soutenir bana na ngai ndenge bazo tanga ndenge pe nazo zoma moke ko lia alors gouvernement soki aza na posa ya bana na ye aza na posa ba opérateur économique na ye soki bazan nécessaire pour na yimboka il faut aider bango cadre bango te moyenna quelque chose pour pas redémarrer activité parce que là où il y a la guerre tout est détruit.
Monsieur Ekpak Para, un des célèbres barman de la ville des Badolite. Nous venons de recevoir un appel de Papi Ebonja qui vit à Badolite aussi. Merci de nous écouter. Il nous écoute en FM sur 93. Voici ce qu'il dit. Est-ce qu'on va continuer avec vous tout à l'heure? Papi Ebonja dit, nous avons des sacs de maïs ici. Donc, ils ont des sacs de maïs à Badolite qui chôment, écrit-il. Comment faire pour les ramener à Kinshasa? Quand il n'y a pas de bateau, le gouvernement doit faire quelque chose pour que les populations congolaises ne meurent pas de faim. La nourriture est là, mais à Badolite, il manque les moyens pour les faire parvenir à la capitale et dans d'autres villes du pays. Voilà ce que dit Papi Ebonja. Voilà. Est-ce que je reviens à vous? Qu'est-ce que demandent les opérateurs économiques vis-à-vis de tous ces problèmes qu'on vient d'évoquer?
Eh bien, beaucoup de commerçants espèrent, Walter, recevoir des crédits du gouvernement. Donc, ils déplorent en plus aussi l'absence d'une banque commerciale dans la ville. Une institution pareille les aiderait à faire aisément des transactions monétaires. Walter, il faut souligner que les crédits que demandent les commerçants de Badolite les encourageraient à relancer davantage les activités économiques de la ville. Ceci pour le bien-être social de populations locales et celle aussi de Quinoa qui aime bien, je pense que les Quinoa nous suivent en ce moment, consommer ce que produisent les Litéens. Donc les Quinoa se souviennent encore du poisson capitaine de Mobaye Mbongo, de Sombo, du Pondou et autres produits, je dirais, made in Badolite.
Est-ce que vous avez dit Litéen? Litéen, ça veut dire habitant de Badolite? Vous nous avez dit les Quinois aiment bien consommer ce que produisent les Litéens. Qui sont les Litéens?
Ouais, les Litéens, ce sont vraiment les habitants de Badolite, en quelque sorte. C'est ça le nom qui est communément connu à Badolite. Ou alors on peut appeler Badolite Zoulou, comme on le dit. Bon, moi je préférais prendre plutôt les noms Litéens.
Ben voilà, on apprend des choses. Ouais. Les Kalemiars, les Litéens, enfin, autant de choses. Enfin, on va terminer avec vous, Askrin. Quelle est notre potentialité économique qu'on peut épingler pour Badolite? Que peut contribuer au développement de la RDC?
Eh bien, Walter, Badolite est éclairé 24 sur 24 heures par un barrage hydroélectrique érigé à Mobaye Mbongo, à 25 km de la ville. Mais les populations déplorent l'inexistence dans la ville des industries qui doivent exploiter au maximum ce courant. Mmh. Pour les Litéens, ce barrage constitue en tout cas un atout important pour le développement économique de la zone, lesquels, je dirais bien, doit attirer l'attention du gouvernement.
Voilà, il faut dire aux auditeurs que Badolite ne veut plus être l'image d'une ville politique, mais plutôt d'une ville à d'énormes potentialités économiques. Il y a de l'énergie électrique 24 heures sur 24. Alors vous, opérateurs économiques qui nous écoutez, allez tenter de développer vos affaires à Badolite. Le courant y est 24 sur 24. Hein? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Hein?
D'accord.
Ben voilà. Merci beaucoup Askin de nous avoir amené dans ces réalités que vivent les Litéens, attendez, habitants des Badolite. Et nous les remercions d'être à l'écoute de Radio Okapi 24 sur 24 heures aussi, je l'espère. Askin, on se retrouve très très prochainement pour un autre sujet, Okapi Action. J'espère que tu nous amèneras dans une autre ville dans les profondeurs de la province de l'Équateur.
Merci beaucoup, Walter.
Au revoir. Okapi Action, on va rester sur cette question de la relance des activités économique des Badolités. Nous devrions avoir au moins en tout cas deux intervenants sur cette question. D'abord, pour commencer, le maire de la ville des Badolités, Monsieur Kapalatar, qui doit être en ligne. En attendant, disons un coucou particulier à tous les Litéens, tous les habitants des Badolités qui nous écoutent en direct maintenant. 93 FM à Gbadolité. Le maire de la ville de Gbado, Monsieur Kapalata, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Mon nom, c'est Walter Mulondi. Je suis heureux de vous recevoir pour parler avec vous de cet engouement aux activités économiques qu'on observe auprès de vos administrés. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de constater qu'à Gbadolité, les gens veulent produire, ils ne veulent plus rester dans un carcan d'une ville qui avait la réputation d'être seulement une capitale des activités politiques?
Oui, effectivement, moi je crois qu'il y a une prise de conscience. Hein. La population d'abord a pris conscience de ses faiblesses. Ces faiblesses, c'était plutôt la dépendance envers une seule personne. Maintenant, chacun a voulu se prendre en charge. C'est ce qui fait, par exemple, que vous avez vu que certains opérateurs économiques, malgré qu'ils étaient complètement pillés, vous savez très bien que Gbado était le quartier général presque de toutes les forces qui sont venues d'abord avec Kabila père. Et nous avons été complètement pillés. La population a pris conscience pour reprendre les activités. Il y en a qui se sont donnés pratiquement aux travaux des gens et d'autres qui ont soit vendu leurs véhicules, leurs maisons, leurs motos, ainsi de suite pour reprendre les activités. C'est ce qui fait par exemple que actuellement nous avons par exemple du point de vue agricole, une production assez suffisante pour d'abord nourrir la population de Gbado et ensuite envoyer à Kinshasa en quelque sorte. Oui. Ou dans d'autres coins du pays.
Oui, mais monsieur le maire, il y a un problème. On a entendu des opérateurs agricoles de Gbado. Ils se disent qu'il y a une forte production, mais l'évacuation n'est pas donnée à tout le monde. On utilise seulement la voie aérienne. Et ça coûte quand même cher par rapport à d'autres voies d'évacuation, à d'autres moyens.
Oui, effectivement, ça c'est vrai. Nous n'avons que Wimbi Dira actuellement pour évacuer nos produits. Et vous savez par exemple que nous sommes, Gbadolité, c'est un coin enclavé. Il faudrait 140 km pour atteindre les beaches de Businga. Et l'état de la route est déplorable, c'est-à-dire il y a un tronçon là de 40 km que vous pouvez même mettre 48 heures à 72 heures. Donc vous voyez par exemple que le problème qui se pose maintenant pour que la population continue à produire davantage, il faudrait désenclaver Gbado. Le désenclavement de Gbado a commencé avec le ministre Ndundu qui a travaillé déjà 70 km de ces tronçons-là. Mais maintenant, pour le moment, les travaux sont presque aussi arrêtés. Et nous aussi, à Gbado, nous sommes en train de nous poser la question de savoir est-ce que par hasard, Ndundu n'a pas de problème à cause du fait qu'il est en train d'entretenir cette route.
Monsieur le maire, nous allons laisser les questions politiques aux émissions politiques. Nous parlons plutôt économie et développement. Donc pour désenclaver Gbadolité, et c'est là que j'accroche, c'est que il faudra, à votre avis, notamment réhabiliter cette route Gbado-Businga. Il reste combien de kilomètres avant d'atteindre le beach de Businga?
Il reste une affaire de 70 km, mais ajouté à cela, il faudrait aussi baliser la rivière Mongala et aussi draguer, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans comme ça que cette rivière n'est plus draguer, c'est ce qui fait par exemple que les bateaux aussi n'arrivent plus à Businga.
Les bateaux de gratonnage ne peuvent plus passer, c'est un problème. Même sur le fleuve Congo, il y a le même problème. Est-ce qu'au niveau de la ville d'Egbadolité, avec la fédération des entrepreneurs, est-ce que vous essayez de réfléchir ensemble et avec aussi les autres producteurs sur ce qui peut être fait en attendant ou adresser un mémo au niveau de la province qui est en Bandaka déjà pour voir ce qui peut être fait à ce niveau?
Oui, nous avons eu déjà à réfléchir là-dessus. Nous avons trouvé par exemple que pour être vraiment concurrentiel sur le marché de Kinshasa, il faudrait emprunter la rivière Oubangui. Mais le problème aussi se pose aussi au niveau de la rivière Oubangui, qui a aussi des problèmes de navigabilité parce que à certains endroits il y a des rapides, donc tout ça c'est toujours un problème. Nous avons songé à ouvrir un marché frontalier à la frontière avec Centrafrique, mais vous voyez notre problème ici, nous sommes des nationalistes, nous voulons quand même que nos produits puissent atteindre Kinshasa et résoudre ce problème de crise alimentaire au niveau de Kinshasa.
Mais la route Gbado vers Zongo, elle est plus longue ou plus courte? Parce que je sais pertinemment que le fleuve Oubangui entre Bangui et Dakar, en tout cas au moins là, c'est assez bien, non?
Là, entre Bangui et Mbandaka, les problèmes
le
ne se
bien.
Posent pas.
Oui.
La navigation aussi est saisonnière dans le sens où pendant la saison sèche, il y a aussi des bancs de sable qui surgissent.
Oui, oui.
Donc, il y a une certaine période de l'année seulement qu'il faut naviguer. Même ici, jusqu'au niveau, par exemple, des mobiles. Pendant la saison de pluie, les bateaux peuvent toujours aussi arriver.
Mais alors il faut... La route Badolité-Zongo, vous pouvez pas voir dans quelle mesure peut-être réhabiliter cette route-là pour que ça facilite l'évacuation des produits jusque Zongo et à partir de Zongo prendre le fleuve Oubangui jusque Mbandaka?
Non, je crois que la route Badolité-Zongo poserait encore davantage de problèmes que la route Badolité-Businga parce que Badolité-Zongo c'est autour de 360 km. Et vous avez beaucoup de collines en cours de route. Ça demanderait encore beaucoup de moyens. Moi, je crois qu'il faudrait terminer rapidement Badolité-Businga.
Oui.
Comme ça, on pourra ne fût-ce qu'évacuer nos produits à travers Businga.
Donc, on se focalise sur Bado-Businga. C'est selon de combien de kilomètres cette route, monsieur le maire?
C'est 140 kilomètres.
Et c'est seulement la moitié qui a été réhabilitée, il reste 70 kilomètres à finir.
Oui, il nous reste 70 kilomètres. Bon, il y a aussi ceci. Vous savez, par exemple, en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait quand même élaboré un plan là, appelé plan Marshall, pour reconstruire l'Europe. Mais comment on peut nous abandonner comme ça? Est-ce que nous n'avons pas sur le plan national un plan aussi pour venir en aide aux opérateurs économiques?
Voilà une question que vous posez, mais bon, on va finir par cette question de Désiré Kobala qui vit à Gbadolité aussi, qui estime que les difficultés que vous connaissez à Gbado, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui sont encore bloqués dans la brousse, les déplacés de guerre qui ne peuvent rien faire, mais qui ont aussi des potentialités.
Oui, nous avons, c'est-à-dire le problème là qu'il est en train de poser, c'est un problème humanitaire. Nous pensons par exemple dans le nord ici, c'est presque tout le monde qui se trouve dans une situation de vulnérabilité que la communauté d'abord nationale ne songe même pas à résoudre. Si vous prenez l'hôpital général de Gbado, il n'y a même pas un comprimé d'aspirine. Alors, sans compter par exemple l'état d'abandon où nous nous trouvons actuellement pendant plus de 7 ans. C'est vrai qu'il y a des gens dans la brousse qui pouvaient aussi constituer une main d'œuvre importante pour la relance économique de notre région.
Voilà, donc autant de problèmes. Voilà, un appel à tous les opérateurs économiques intéressés à venir investir à Badolite, ils peuvent le faire. Il y a le courant 24 heures sur 24. Il faut finir la réhabilitation de la route Businga-Bado pour atteindre le beach de Businga et ainsi continuer à évacuer les produits. Monsieur Kapalata, je rappelle aux auditeurs que vous êtes le maire de la ville de Badolite. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je joins mon espoir au vôtre de voir Badolite être désenclavé et les opérateurs économiques développer leurs activités.
Merci beaucoup.
Au revoir. Savez-vous qu'il va nous être possible en quelques minutes de quitter le nord-est, le nord-ouest de la République démocratique du Congo? Donc, Badolite, on va faire un saut de plusieurs milliers de kilomètres, quelques milliers de kilomètres, vers l'est de la RDC, précisément à Kalemi, sur les bords du lac Tanganyika. Kalemi, pour évoquer quand même une nouvelle assez intéressante. Ils sont contents aujourd'hui, ceux qui nous écoutent. Nos auditeurs à Kalemi avaient baissé il y a quelques jours parce qu'il n'y avait pas l'énergie électrique chez les uns. Mais bon, qu'à cela ne tienne, les vendeurs des piles crayons ont fait de bonnes affaires parce que les auditeurs étaient obligés d'aller acheter ces piles crayons pour écouter Radio Okapi. Bon voilà, c'est arrivé comme ça. Non, juste pour vous dire que l'électricité a été rétablie à Kalemi seulement voici 3 jours déjà. Pendant près des mois, les Kalemiens ont vécu un véritable calvaire, approvisionnement difficile en eau, les poches noires ont favorisé l'insécurité, les petites et moyennes entreprises, l'industrie était en veilleuse, les appareils électroménagers hors service, et pour ceux qui ont les allô-allô, comme on dit, la recharge des téléphones portables était impossible. Alors comment peut-être éviter à l'avenir pareille situation? On va essayer d'en parler avec d'abord notre confrère François Xavier Nibé. François, bonjour.
Bonjour Walter, bonjour tout le monde.
Alors comment ça se passe aujourd'hui, Kalemi, les ampoules montent les ongles hein, ou même Imeredi à Kalemi, c'est ça?
Ah oui, c'est vrai, les ampoules se sont finalement réallumées. Je voudrais avant tout vous remercier pour la simple raison qu'au début de cette émission, vous avez fait une belle description de la situation sur les conséquences dues au manque de l'énergie électrique sur notre ville de Kalemi au bord du lac Tanganyika. À proprement parler, Walter, cette panne qui a mis un mois d'ailleurs avant le rétablissement venait d'être ressentie avec beaucoup, beaucoup plus d'acuité, beaucoup de secousses à tous les niveaux de vie des habitants de Kalemi. Imaginez, Walter, ce que cela représente pour la population entière qui prépare les grandes fêtes de fin d'année. Je vois ici la Noël, je vois ici la Bonne Année, sans électricité. Ainsi, pour revenir un tout petit peu à ce que vous disiez là, disons qu'au niveau sanitaire, par exemple, la Régie des Eaux, confrontée déjà au départ aux difficultés d'approvisionnement en fuel pour pomper les robinets, n'a pas pu correctement fournir l'eau sur toute la ville de Kalemi. Le centre de traitement des choléra a, de son côté aussi, enregistré une trentaine de malades à l'hôpital général de Kalemi et quelques morts, cependant, ont été malheureusement déplorés dans la cité de Kalemi. En plus, pour ne prendre que ces quelques échantillons sur la vie des habitants de Kalemi, il y a à signaler également quelques subtilités énergétiques comme des actes de banditisme que vous venez à peine d'évoquer. Sur les tableaux de criminalité de la police nationale ici à Kalemi, quelques cas venaient d'être enregistrés pendant cette période de grande obscurité sur la ville de Kalemi, Walter.
Est-ce que vous avez peut-être réussi à rencontrer des gens qui ont subi les conséquences de cette coupure d'électricité de près de un mois, notamment des gens qui ont de petites unités qui ne peuvent fonctionner qu'avec l'énergie électrique?
Tout à fait. Nous avons pu rencontrer beaucoup de personnes. C'est vrai, on ne pourra absolument pas nous permettre de faire en sorte que tout le monde passe à ce niveau. Mais pour illustrer nos propos, comme on venait à peine de vous le dire, nous avons dû rencontrer un meunier responsable d'un moulin ici à Kalemi. Il s'appelle Kalombo Titi. Et voici comment lui, Titi, évoque les difficultés rencontrées pendant la période de la crise.
Matatizo tuko nayo kupata na kaldira. Wakati umeme ulienda tulianza na kuuza 20 litre na 10,000 francs. Kisha siku kidogo ikapanda inakuwa na 11,000, siku kidogo ikapanda na 12. Mpaka leo inafika kutumika inakuwa kwa shida. kutumika jana kwa jana hii litre ilifika paka 16,000 francs. Tunaendesha kazi vile vile kwa magumu. Hivi na mazuti yenye tunakuwa tunatumikisha na hii mashine niko nayo ni kubwa. Iko nakunywa karibu litre 15 kwa siku. Inabidi kila wakati nitayarishe mazuti. Hata hapo nanikutanisha hapa niko mkushughulikia juu ya kutafuta tena mazuti. Na kuweza kuendelesha nayo kazi paka magharibi.
François, est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé de ce que M. Kalombo Titi nous a dit tout à l'heure?
Oui, avec plaisir, Walter. Pour les locuteurs français, en même temps que tout le monde qui nous écoute en ce moment, Kalombo dit presque ceci, que les difficultés ont été d'ordre matériel pour les meuniers. Le carburant a manqué sur le marché de Calémie. Au début de la panne, par exemple, 20 litres de mazout coûtaient 10 000 francs congolais. Quelques jours après, la même quantité se vendait sur le marché à 11, 12, jusqu'à 16 000 francs congolais. Et travailler devenait vraiment difficile pour un cas comme le sien, Titi, où le réservoir de son moulin a une capacité de consommation de 50 litres par jour, le problème devenait de plus en plus sérieux.
Alors, on sait déjà depuis quelques jours, enfin depuis trois jours, que le courant a été rétabli à Calémine. Quelles sont les solutions qui sont envisagées en vue d'une solution durable face à cette crise récurrente d'électricité à Calémine?
Mon cher ami Walter, personnellement et même nous, on ne dispose vraiment pas d'éléments fiables pour répondre à une telle question. Nous sommes en train, nous, en tant que population, en train de subir les conséquences des pannes. Comme vous le savez, pour éviter de commettre des erreurs dans les affaires qui ne nous concernent pas, laissez-moi Walter vous dire que nous avons juste à nos côtés l'ingénieur Batelé Kofamba, chef de district de la SNEL. Il est mieux disposé, lui, Batelé, à pouvoir réserver une réponse correcte à votre question.
Merci beaucoup, François.
Merci à vous autant.
Au revoir. Enfin, c'est possible d'avoir l'ingénieur Basile Kofamba. Bonjour, monsieur l'ingénieur.
Bonjour.
Vous êtes chef de district de la SNEL pour le district de Tanganyika. Le courant est revenu, ça fait trois jours à Calémie, au grand bonheur des Caléniards. Mais quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que pareille situation ne se reproduise pas?
Il s'agit donc d'un problème de glissement de terrain accompagné des fortes pluies qui se sont produites pendant la saison de pluie de décembre l'année passée. Et ces pluies ont entraîné de la terre, des roches, des pierres et de boue dans la centrale. La machine elle-même était attaquée par des infiltrations d'eau et c'est comme ça qu'il nous faut beaucoup de temps pour pouvoir terminer à dégager complètement la centrale de ces boues.
Mais alors, quelles sont les solutions durables et envisagées?
Ben, les solutions, c'est le dégagement des boues. Réunir tous les moyens nécessaires pour dégager les pierres, toutes les matières solides, ainsi que les boues qui se trouvent, même actuellement qu'on a remis le courant, se trouvent toujours dans la centrale.
Mais ça prendra combien de temps pour dégager complètement toutes ces voies?
Concrètement, c'est prendre les nous avons des tâcherons, du personnel journalier que nous avons engagé pour pouvoir faire ces travaux manuellement. Lorsque les outils, les équipements nécessaires, les engins seront disponibles, alors là, ce seront les engins qui feront le reste.
Eh bien voilà, au Capi Action, on va se quitter dans quelques instants, des auditeurs qui ont réagi. Okita Mpoilonga, qui nous appelait de Paris, de la ville de Paris en France, capitale de la France. Les dollars injectés dans le marché n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Avec une population telle que celle de la RDC, le gouverneur a plus réfléchi sur le cadre macroéconomique, un nom microéconomique. Bref, il n'a pas pensé à la population. Okitampoi nous a écrit de Paris, parce qu'il nous écoutait en direct, sur Internet, en situation réelle. Et puis Kyongo de Kananga, ils viennent de connaître une surfacturation d'eau avec la crise actuelle. L'eau ne coule que 4 fois par semaine. Voulez-vous, vous, Radio Okapi, nous aider en invitant un responsable de la régie des eaux pour nous expliquer le problème? Eh bien, c'est bien noté, cher auditeur. On va chercher à voir les responsables de la régie des eaux à Kananga pour qu'ils disent aux populations, aux Congolais, qu'est-ce qui se passe. Alors, OGM, face à la crise alimentaire, les industries développent la culture des organismes génétiquement modifiés. Il n'y a pas péril à la demeure, les recherches ne l'ont pas encore démontré, mais beaucoup d'avantages, on nous l'a démontré dans ce magazine. Badolité ne veut plus être cataloguée ville politique, Badolité veut être une ville qui produit, qui participe à l'économie nationale. Il y a beaucoup de preuves, malheureusement, les voies d'évacuation ne sont pas assez intéressantes parce qu'ils n'utilisent que l'avion, alors que les bateaux et les routes sont très mauvaises. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt pour de nouvelles aventures dans vos vies.